Vous écoutez On lit pour vous.
Spectacle pour les yeux, catastrophe pour les organes. Un texte d'Éric Martel paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Lendemain de veille à Washington, D.C. Après avoir présenté ce qui devait être le plus grand feu d'artifice de l'histoire de l'humanité, la capitale américaine a connu la fin de semaine dernière sa pire qualité de l'air de l'année. Même à plus petite échelle, au Québec, les feux d'artifice peuvent affecter la santé de ceux qui y assistent de près. Ce sont 850 000 pétards qui ont été lancés lors des festivités du 4 juillet, soit 40 000 de plus que pour le plus grand feu d'artifice répertorié dans le livre Guinness des records et 50 fois plus que pour l'habituel feu d'artifice organisé par la capitale américaine pour célébrer la fête nationale. Plusieurs experts avaient prévenu que ce volume de tir, concentré en à peine 40 minutes, aurait des effets nocifs sur la qualité de l'air. Ils avaient vu juste. Des alertes code violet correspondant à une qualité de l'air jugée très mauvaise ont été envoyées à une grande partie de la population à Washington, de même qu'au Maryland et en Virginie. La qualité de l'air est revenue à un niveau habituel vers midi, le lendemain. De fortes pluies ont permis à la fumée de se dissiper. Nous sommes passés tout près d'un scénario bien plus grave, croit le spécialiste des sciences atmosphériques à l'Université du Maryland, Russell Dickerson. Conséquences importantes. Peu importe l'ampleur du spectacle, respirer de la fumée de feu d'artifice peut représenter une véritable catastrophe, prévient le chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses, Marc Olivier. Les bombes colorées qui éclatent contiennent des métaux lourds, dont du strontium, explique-t-il. Ces particules fines de 2,5 micromètres et moins peuvent pénétrer dans le corps humain. Elles peuvent entrer très profondément dans les poumons, puis à ce moment-là, elles vont passer dans le sang, détaille-t-il. Les métaux lourds vont ensuite s'emmagasiner jusqu'aux organes filtrants, le foie et les reins, créant une contamination quasi permanente, explique M. Olivier. Ce n'est pas demain matin que vous allez voir la différence, dit-il. Mais cette accumulation, jumelée à l'accumulation de métaux liés à l'alimentation, contribuera à la dégradation de votre système. Lors de feux d'artifice, la présence de métaux lourds s'élève jusqu'à 1000 fois plus haut que la norme permise, selon le chimiste. Les Montréalais qui assistent aux feux d'artifice à partir du pont Jacques-Cartier sont particulièrement susceptibles d'en subir les effets néfastes, puisque les vents dominants les exposent directement à la fumée. Ils en sont prisonniers et ne se rendent même pas compte des impacts sur leur santé, se désole M. Olivier. Les animaux en sont aussi parfois victimes. Des études démontrent que les oiseaux, pris de panique, peuvent carrément abandonner leur nid ou jeter des œufs par terre. Ils sont décontenancés par le bruit et les éclats de lumière à répétition, explique M. Olivier. Après les festivités du Nouvel An, en 2025, plus de 1000 pinsons du Nord ont été retrouvés morts près d'une ville située dans le massif de la Sredna Gora, en Bulgarie. Les oiseaux présentaient des hémorragies internes et des ruptures d'organes. Fêtez autrement. Devant les risques pour l'environnement et la qualité de l'air, les feux d'artifice sont bannis à Mont-Tremblant depuis mars 2023. La célébration de la fête nationale a marqué la tenue des derniers feux à Chambly, qui misera sur une formule plus écologique dans les années à venir. Interdire les feux d'artifice à l'échelle provinciale ne serait toutefois pas politiquement recevable, croit Marc Olivier. Même si on se rend compte des effets de la pollution, dit-il, plusieurs personnes croient que les feux d'artifice donnent de la joie, émerveillent les enfants, procurent plusieurs effets positifs. Pour en profiter en toute sécurité, le professeur suggère aux spectateurs d'admirer les feux d'artifice à travers leurs fenêtres ou à partir de leur véhicule, si possible. Dans un avenir rapproché, il serait idéal de proposer des spectacles ralliant les foules sans le coup sur la qualité de l'air, propose-t-il, citant notamment l'utilisation de jeux de drones ou de projections lumineuses sur jets d'eau. C'était « Spectacle pour les yeux, catastrophe pour les organes », un texte d'Éric Martel paru le 7 juillet 2026 dans La Presse.
Méfiez-vous des vrais faux médecins, un texte de Marine Corniou paru le 27 mars 2026 dans le magazine Québec Science. Sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, des spécialistes reconnus donnent des conseils de santé ou de nutrition et accumulent des millions de vues. Le problème, beaucoup de ces vidéos sont des deepfakes, hypertrucage, des contenus ultra-réalistes créés par l'intelligence artificielle IA. Et les médecins en question, qui existent bel et bien, n'ont souvent aucune idée que leur image est utilisée à leur insu. Il y a peu, Rémi Rabaza-Lorette, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, publiait un message d'alerte sur LinkedIn. Depuis plusieurs mois, des vidéos circulent en ligne en usurpant mon identité. Elles trompent des patients en leur promettant la découverte d'un médicament miracle contre le diabète qui leur permettrait d'arrêter leur traitement actuel. Malgré les signalements répétés, les mises en demeure et même une lettre ouverte, ces contenus continuent de réapparaître. Il n'est pas le seul à prêter, malgré lui, son visage et sa notoriété à des arnaqueurs. Au Québec, un avatar de l'urgentologue Alain Vadeboncœur a ainsi vanté les mérites d'un traitement bidon pour agrandir le pénis. En France, un nutritionniste s'est découvert en train de donner des conseils anti-arthrose dans une trentaine de vidéos YouTube. Au Royaume-Uni, une généraliste a été horrifiée de réaliser que sa propre mère n'avait pas vu la différence entre elle et sa copie virtuelle, qui prônait des suppléments de vitamine B12 potentiellement dangereux, selon un article du New York Times. L'article note aussi qu'une médecin de l'Université Harvard a trouvé pas moins de 20 comptes Facebook et LinkedIn usurpant son image et vantant les mérites d'un produit amaigrissant. Si ce type de fraude n'est pas nouveau, il explose aujourd'hui grâce à des centaines d'outils qui permettent à n'importe qui, à partir de quelques photos ou vidéos, de créer des vidéos convaincantes. Une aubaine pour certaines entreprises sans scrupules qui voient là l'occasion de s'enrichir en laissant des figures d'autorité faire leur promotion. L'organisme de vérification des faits, Full Fact, a par exemple découvert des centaines de vidéos qui orientent vers Wellness Nest, une entreprise américaine de compléments alimentaires. Outre la perte de poids, le diabète, l'hypertension et l'arthrose sont particulièrement ciblés. Autrement dit, ces contrefaçons s'adressent surtout à un public âgé qui se méfie moins du contenu généré par l'IA que les jeunes. La stratégie est pernicieuse. Depuis la pandémie, les médias et les autorités de santé invitent à vérifier l'identité des experts et expertes pour savoir si on peut ou non leur faire confiance. Sont-ils liés à une université? Ont-ils un diplôme pertinent? Là, ce sont justement des personnes fiables qui prodiguent leurs conseils. Pourquoi avoir des soupçons? À l'heure où la confiance du public dans les institutions scientifiques vacille, ces escroqueries sont particulièrement dangereuses. Elles aggravent cette crise de crédibilité et menacent la santé des victimes. Acheter de faux traitements à des acteurs malveillants est, au mieux, une perte de temps et d'argent. Au pire, cela peut amener les patients à retarder un diagnostic et un traitement approprié et les conduire vers des substances potentiellement dangereuses, soulignait récemment John White, vice-président de l'Association médicale américaine, dans le média Stat News. Les plateformes de réseaux sociaux tardent à réagir, d'autant que les sites web commercialisant ces produits, généralement basés à l'étranger, disparaissent et réapparaissent sous de nouveaux noms, note le médecin. L'asymétrie est totale entre les acteurs de la désinformation en santé et ceux qui s'expriment pour défendre les faits. Les désinformateurs ne sont que rarement sanctionnés, dénonce un rapport sur l'infodémie signé en 2026 par 3 scientifiques français. Pour éviter de tomber dans le piège, on peut encore se méfier des voix robotiques ou repérer les mouvements d'yeux ou de lèvres étranges. Mais ces défauts seront bientôt impossibles à démasquer. Nous approchons d'un seuil de réalité synthétique au point au-delà duquel les humains ne pourront plus distinguer les médias authentiques des médias fabriqués sans assistance technologique, écrit Nadia Nafi, professeure en technologie éducative à l'Université Laval, dans un article du courrier de l'UNESCO. En un mot, nous devons désormais être paranoïaques et nous méfier plus que jamais des produits miracles, des pilules magiques et des vitamines qui prétendent tout guérir. C'était « Méfiez-vous des vrais faux médecins », un texte de Marine Cornioux, paru le 27 mars 2026 dans le magazine Québec Science.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1949, premier essai nucléaire soviétique. L'Union soviétique procède à son premier essai d'armes nucléaires, mettant fin au monopole américain sur cette technologie. Cet essai, mené secrètement au Kazakhstan, surprend les services de renseignement occidentaux par sa rapidité. Il marque le véritable début de la course aux armements nucléaires de la guerre froide. Cet événement transforme durablement l'équilibre géopolitique mondial pour les décennies suivantes. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août.
Les pompons de la misère, un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 24 mars 2026 dans Le Devoir. Je regarde mes pauvres plantes qui, tant bien que mal, ont réussi à passer à travers l'hiver. Il y a les bébés fougères qui recommencent à se déployer à mesure que les jours rallongent, une succulente endurante, mais qui semble en avoir ras-le-bol avec son petit bout tordu, les langues de belle-mère qui partent dans toutes les directions au lieu de pointer vers le haut, sans oublier cette petite touffe dont je ne sais plus si elle est morte ou vivante. On dirait qu'elle revient de la guerre ou d'un combat de coq. À la fin de l'été dernier, alors que nous vidions les pots et les jardinières, voyant que je m'apprêtais à me départir de ma Tradescantia pallida, une plante coriace aux longues feuilles violettes, mon amie Clémence m'a conseillé d'en conserver quelques gerbes. Citation: « Mets-les dans de l'eau et oublie-les quelque part dans un coin. C'est pas tuable. Tu vas pouvoir les replanter au printemps prochain. » Fin de citation. Il paraît que cette plante est considérée comme invasive en Afrique du Sud et en Australie. Il paraît même qu'on l'appelle misère pourpre. Elle est pourtant mignonne avec ses petits pompons roses. Je la regarde renaître ces jours-ci et je ne comprends pas comment elle s'en est tirée. Voilà que de petites pousses vert tendres se multiplient par-dessus le mauve fatigué, pleines d'espoir pour la suite, en buvant la lumière encore un peu avare du mois de mars. Les petites choses qui arrivent à survivre envers et contre toute attente, malgré un environnement hostile, m'étonnent et m'émeuvent. Je pense à ce court-métrage d'ici qui a triomphé à la 98e cérémonie des Oscars, La jeune fille qui pleurait des perles. Produit par l'Office national du film et réalisé par les Montréalais Maciek Zerbowski et Chris Levis, le film en animation image par image raconte l'histoire d'un jeune garçon pauvre comme la gale qui s'éprend d'une jeune fille triste et qui pleure des perles le soir dans son lit. C'est à la fois l'histoire d'un amour impossible et d'un dilemme insoluble qui se déroule dans le Montréal pauvre, gris, décati du début du siècle dernier. Avec la musique de Patrick Watson qui sublime tout, la touche magique de Bridget Henry à la direction artistique et la voix de James Hindman dans la version française, celle de Colm Feore dans l'anglaise. On peut regarder gratuitement sur le site de l'ONF ces 17 minutes qui nous transportent ailleurs, à une autre époque et à un autre rythme. Lauréat de l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, ce court, qui a reçu d'autres prix, dont le prix Shortcuts du meilleur court-métrage canadien au Festival international du film de Toronto, est le résultat d'un travail de longue haleine. Chaque jour, durant 5 ans, les réalisateurs se sont rendus dans leur petit studio du Milex pour concevoir et construire les décors, les maquettes et les marionnettes et animer cet univers. En écoutant l'entretien avec les artisans du film auxquels on a aussi accès sur le site de l'ONF, on comprend que ce qui en a fait le succès est un mélange de savoir-faire, de patience et d'audace. Maciek Zerbowski a remercié l'ONF d'avoir permis à des farfelus comme eux, qui, à 50 ans passés, jouent encore avec des poupées, de se rendre au bout d'un projet de création qui demandait minutie, temps et exploration. Voir la crème du Myland catapultée dans le lustre pailleté et sous les projecteurs du Dolby Theatre à Los Angeles pour un film aussi original et abouti fait plaisir à voir. Une étincelle de fierté et d'étonnement brillait dans les yeux du duo de réalisateurs durant leur discours de remerciement. Au risque de me répéter, j'aime voir triompher les petites choses qui requièrent du temps, les œuvres qui arrivent, envers et malgré tout, à s'épanouir. Lorsque la lumière se braque enfin sur elle et qu'une fleur apparaît, il faut prendre le temps de s'arrêter pour la regarder. Je pourrais aussi vous parler d'une pièce que des amis m'ont emmenée voir il y a 2 semaines aux Écuries, qui est située dans une rue résidentielle du quartier Villeray. Intitulée « Réalité parallèle », cette pièce en 3 volets, qui était présentée jusqu'au 21 mars par la compagnie de la pire espèce, est le fruit improbable d'une rencontre entre théâtre d'objets, vidéo en direct, bruitage et théâtre de papier, dont la tradition du théâtre à l'italienne miniature tenant en général sur une table. Ce spectacle unique et empreint d'humour se déroulait autant sur l'écran que sous l'écran. C'était fascinant de voir les artisans travailler au fil d'une chorégraphie compliquée, mais étonnamment fluide, pour faire se mouvoir les objets, personnages et décors de carton, marionnettes, de manière à créer sur l'écran des tableaux intemporels et très poétiques. Un peu comme si on voyait ce qui se passe en coulisses pendant la représentation. J'espère que Réalité parallèle pourra continuer de tourner encore, car c'est une création qui n'aurait pas pu voir le jour si les créateurs n'y avaient pas mis tout le soin, le savoir-faire et le temps requis. On parle ici aussi, comme pour la jeune fille qui pleurait des perles, de 5-6 ans de préparation. On parle de temps, de travail, de don de soi, mais on ne parle pas beaucoup d'argent. Avez-vous remarqué? Je pense à cet ami écrivain qui écrit des romans le matin dans l'autobus sur son portable en se rendant au travail. À ces petites librairies qui réservent un espace aux zines et aux publications artisanales dans leurs locaux. Je pense à cet autre ami qui lance environ tous les 12 ans un album créé de manière indépendante dans sa chambre et qui arrive lui aussi à tracer son chemin jusqu'à nos oreilles sans jamais se compromettre. Dans notre monde pressurisé qui carbure au fric et à la performance, je pense qu'il faut se réjouir du triomphe des créateurs minutieux, rigoureux, humbles et entêtés. Portons attention aux fruits de leur labeur, comme on célébrera bientôt le retour des jolis pompons roses sur la misère pourpre. Au risque de me répéter, j'aime voir triompher les petites choses qui requièrent du temps, les œuvres qui arrivent, envers et malgré tout, à s'épanouir. C'était « Les pompons de la misère », un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 24 mars 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1963, mise en service du téléphone rouge. une ligne de communication directe est établie entre Washington et Moscou afin de permettre un contact rapide entre les dirigeants américains et soviétiques en cas de crise. Ce dispositif, souvent appelé « téléphone rouge », bien qu'il s'agisse en réalité d'un téléscripteur, est mis en place après la tension extrême de la crise des missiles de Cuba survenue l'année précédente. Il vise à réduire les risques de malentendus pouvant mener à un conflit nucléaire. Cette ligne reste aujourd'hui un symbole de la diplomatie de la guerre froide. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août.
Sous le parasol, un texte de François-William Croteau, publié dans Le Devoir du 5 août 2026. En sous-titre, la photo des vacanciers sous un ciel en feu nous rappelle que nous faisons tous face à la même contradiction. Une photo a récemment fait le tour du monde. On y voit un couple installé sur une plage de Gironde. Sous un parasol, il regarde la mer pendant qu'à l'horizon s'élève un immense nuage de fumée provenant d'un incendie de forêt. En quelques heures, cette image, prise le 24 juillet au plus fort des feux en France, est devenue le symbole d'une humanité qui continuerait de profiter de ses vacances pendant que le monde brûle. Plusieurs y ont vu de l'indifférence, d'autres une illustration du déni climatique. Pourtant, plus je regarde cette photo, moins j'ai envie de juger ces deux personnes. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle nous renvoie une image de nous-mêmes. Nous revenons tout juste des vacances de la construction. Comme chaque été, des milliers de Québécois ont pris la route, réservé un chalet, rempli la voiture et tenté l'espace de quelques jours d'oublier le rythme effréné du quotidien. Qui pourrait le leur reprocher? Après une année de travail, chacun aspire au repos. Ces vacanciers français ne sont probablement pas différents de nous. Ils savent ce qui se passe devant eux, ils savent que la forêt brûle, mais ils veulent malgré tout profiter de leurs vacances. Et c'est profondément humain. Depuis le début du printemps, nous avons pourtant traversé une succession d'événements qui auraient chacun pu faire les manchettes pendant plusieurs jours il n'y a pas si longtemps. Des canicules se sont succédées. Des pluies diluviennes ont provoqué des débordements et des inondations. Des villes ont demandé aux citoyens de réduire leur consommation d'eau. Des feux de forêt ont de nouveau dégradé la qualité de l'air. Des infrastructures ont été mises à rude épreuve et les coûts associés à tous ces dérèglements ont continué d'augmenter. Malgré tout cela, nous poursuivons notre quotidien. Nous déplaçons une activité. Nous reportons un barbecue, nous fermons les fenêtres lorsque la fumée s'installe, puis nous passons à autre chose. C'est l'expression de la plus grande force de l'être humain. Nous savons nous adapter. Mais cette capacité d'adaptation comporte aussi un risque. À force de vivre des événements qui étaient autrefois exceptionnels, nous finissons par les considérer comme normaux. Nous cessons d'être surpris lorsqu'un avis de chaleur accablante est diffusé. Nous nous habituons aux épisodes de pluie extrême. Les images de quartiers inondés ou de forêts en flammes ne provoquent plus le même choc qu'auparavant. Non pas parce que nous sommes devenus insensibles, mais parce que notre cerveau apprend à vivre avec une réalité qui change plus vite que nos repères. Si cette photo nous interpelle autant, c'est peut-être parce qu'elle révèle une contradiction plus profonde. Nous savons que des changements climatiques s'accélèrent. Pourtant, ce qui guide encore le plus souvent nos choix individuels, comme nos débats collectifs, demeure le pouvoir d'achat. Nous voulons préserver notre capacité à partir en vacances, à acheter une maison, à nous déplacer, à remplir notre panier d'épicerie. Et c'est parfaitement légitime. Les gouvernements répondent à cette préoccupation. Depuis quelques mois, plusieurs décisions vont dans le même sens. on rapporte certaines cibles environnementales. On assouplit certaines exigences pour accélérer des projets. On retarde des investissements ou l'on privilégie des mesures qui atténuent la pression immédiate sur les ménages. Chacune de ces décisions peut se défendre lorsqu'on l'examine isolément. Mises bout à bout, ces décisions racontent toutefois une autre histoire, celle d'une société qui répond aux urgences du moment en repoussant constamment ses réponses à la crise permanente. Il ne s'agit évidemment pas d'opposer l'économie à l'environnement. Gouverner, c'est justement arbitrer entre des impératifs parfois contradictoires. Toutefois, à force de vouloir protéger notre pouvoir d'achat aujourd'hui, nous oublions que les changements climatiques deviennent déjà l'un des principaux facteurs qui le menacent. Chaque inondation détruit des maisons, chaque feu de forêt fait grimper les coûts de la protection civile, chaque épisode de pluie diluvienne et de vagues de chaleur fragilise les infrastructures, nuit à la santé publique et réduit la productivité. Les primes d'assurance augmentent, les récoltes deviennent plus incertaines, les municipalités investissent davantage pour réparer plutôt que pour prévenir. Au bout du compte, cette facture finit toujours par nous rattraper. Elle se retrouve dans nos taxes, dans nos assurances, dans notre alimentation et dans nos finances publiques. Le véritable paradoxe est là. Nous prenons parfois des décisions pour protéger notre qualité de vie à court terme, alors qu'elle risque, à plus long terme, de l'éroder progressivement. Nous croyons protéger notre pouvoir d'achat, alors que les coûts de l'inaction climatique le grugent déjà, année après année. Voilà pourquoi cette photo est si puissante. Elle ne montre pas seulement un couple sous un parasol pendant qu'une forêt brûle. Elle nous rappelle que nous faisons tous face à la même contradiction. Nous voulons continuer à vivre pendant qu'autour de nous, le monde change à une vitesse inédite. Le véritable danger n'est peut-être pas que nous continuions à partir en vacances malgré les incendies. Le véritable danger serait de croire que nous pourrons préserver durablement notre qualité de vie sans investir dès aujourd'hui pour protéger les conditions mêmes qui la rendent encore possible. À force de chercher l'ombre d'un parasol, nous finirons par oublier que c'est la forêt devant nous qui nous protège, car un parasol protège du soleil, pas d'un monde qui brûle. Fin de ce texte de François-William Croteau titré « Sous le parasol » publié dans Le Devoir du 5 août 2026.